La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Je suis à nouveau aujourd'hui avec Patrick Calsou, qui est directeur de recherche à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, et qui travaille pour ses recherches à l'Institut de pharmacologie et biologie structurelle de Toulouse. La semaine dernière, on a parlé des cassures de l'ADN, et en particulier les cassures double brin, qui sont particulièrement graves. Et on a vu qu'il fallait un ensemble de protéines pour pouvoir réparer cet ADN. Donc on va continuer à parler de cette réparation et des applications possibles pour la médecine avec Patrick. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour.
Donc est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu, pour les gens qui n'ont peut-être pas écouté la semaine dernière, comment se passe une réparation de cassures double brin d'ADN et d'où viennent toutes ces protéines?
Oui, donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'ADN, c'est une molécule qui est fragile et donc qui est susceptible d'être endommagée par de nombreux agents de l'environnement et en particulier les rayonnements. Rayonnements cosmiques, rayonnements gamma, rayonnements X, qui vont provoquer, entre autres, des cassures double brin. Donc la double chaîne de l'ADN est interrompue. Et évidemment, c'est très néfaste pour une cellule puisque cette double chaîne, elle sert à coder l'information génétique. Donc, il faut réparer rapidement cette cassure pour le bon fonctionnement de la cellule. Et la cellule, justement, la cellule humaine et l'ensemble des organismes, d'ailleurs, sont équipés de protéines qui sont spécialisées dans la réparation de ces cassures. Donc, quelle que soit la cellule, elle est équipée d'un stock de protéines qui est là à la demande pour pouvoir reconnaître et réparer rapidement cette cassure. Donc, la semaine dernière, on parlait de cette protéine coup, qui est cette protéine en forme d'anneau, de bouée, on peut voir ça comme une bouée, qui va donc se fixer très rapidement et avec une forte affinité au niveau des extrémités de la cassure double brin, et qui va servir d'amarrage pour tout un ensemble d'autres partenaires, avec des noms un peu bizarres, XRCC4, XLF, PAX et d'autres, qui interviennent dans ce processus de réparation. C'est un système qui va religaturer ensemble, rabouter les extrémités de la cassure.
Si je comprends bien, donc on a cette protéine coup qui se met autour, qui commence à réparer, mais elle ne peut pas réparer toute seule, non. Et c'est là qu'il y a cette histoire de partenaire, c'est-à-dire que c'est d'autres protéines, toutes sortes d'autres protéines, oui, qui viennent s'apparier, se coller à la coup d'une certaine manière. Oui. C'est ça, c'est là-dessus que vous avez travaillé.
Oui, coup en elle-même, elle n'a pas d'activité propre. Elle va servir juste de plateforme pour recruter les facteurs qui eux-mêmes sont doués de cette activité de ligature.
Et donc, c'est-à-dire qu'elle est un peu comme du scotch, mais du scotch qui ne répare pas, et il faut qu'il y ait d'autres choses qui réparent.
Oui, c'est ça. C'est un pansement temporaire, disons, mais avant qu'il y ait une vraie suture. C'est comme quand on a une plaie, au début, quand le chirurgien n'est pas là, il faut faire quelque chose. Donc on met un sparadrap éventuellement qui pourrait être coup. C'est un peu la trousse d'urgence. Mais par contre derrière, il faut le chirurgien qui arrive avec ses aiguilles, avec son fil, etc. Et donc dans le cas de la réparation par jonction d'extrémité homologue, la protéine qui va réparer, c'est une ligase. On appelle ça une ligase.
Ah ben voilà, encore autre chose.
Voilà. Et elle s'appelle en particulier la ligase 4. Voilà pourquoi 4, parce que dans les cellules humaines, il y a 3 ligases. C'est pas très logique, mais en fait, parce qu'au départ, on pensait qu'il y en avait 4, et puis on s'est aperçu au fur et à mesure des recherches que la 2, en fait, c'était la même que la 1. Donc on a éliminé la 2, et il n'en reste 3, mais elles ont gardé leur nom d'origine. Et donc la ligase 4, voilà, c'est la troisième des ligases.
Est-ce que ligase a quelque chose à faire avec le mot lien ?
Oui, tout à fait. Ouais. Ça vient de lien, ça vient de ligature, c'est ligature. Donc le chirurgien de la NHEJ, c'est la ligase 4. Et coup, c'est le sparadrap, voilà.
Et c'est la ligase 4 qui va chercher les autres protéines, les PAX, les XLF, les...
Alors, la ligase 4, elle est amenée par XRCC4, parce que la ligase 4, si elle n'est pas si elle n'est pas collée à XRCC4 dans les cellules, elle n'existe pas, elle est dégradée. Voilà. Donc, ce qui amène la ligase 4 sur le site de réparation, c'est son partenaire XRCC4. Voilà. C'est un complexe.
Je crois que ce que les gens vont retenir, c'est que c'est extrêmement complexe et que quand même le phénomène du vivant est génial, puisque tout ça, c'est fait pour que ça marche.
Bien sûr.
Donc en fait, vous avez un certain nombre de protéines que vous appelez partenaires qui viennent se coller au cou. Et ce que vous avez trouvé, vous, c'est de quelle manière certaines protéines, de quelle manière ça se passait, quoi,
oui,
c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on a reconstitué un peu dans l'espace, comment ces protéines s'assemblent sur la protéine cou. En fait, ça s'est fait avec un collaborateur hein, qui est spécialiste en ce qu'on appelle la biologie structurale. C'est-à-dire, c'est la façon de la compréhension de comment les protéines se présentent dans l'espace. Voilà. Une protéine, c'est un enchaînement d'acides aminés. Mais si on dit ça, on a l'impression d'une chaîne comme ça, inerte. En fait, pas du tout. Cette chaîne, elle est repliée sur elle-même et elle forme une structure en trois dimensions. Voilà. Et chaque protéine a une structure tridimensionnelle très, très spécifique.
Donc ça permet aux cellules qui sont abîmées, enfin pas aux cellules, l'ADN dans les cellules qui sont abîmées par des phénomènes naturels de se réparer naturellement.
Oui.
Donc ça, c'est assez merveilleux.
Oui.
Maintenant, on va peut-être se rapprocher des problèmes thérapeutiques, en particulier du cancer, puisqu'il y a des applications très importantes là pour le cancer. Alors là, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il faut savoir comment se font les réparations d'ADN pour essayer de les éviter,
oui.
pour vraiment pouvoir détruire les cellules,
oui.
c'est ça.
Oui. Autant dans une cellule normale, la présence de cassure double brin, c'est néfaste pour le fonctionnement de la cellule, autant pour le cancer, on veut justement produire et surproduire en grande quantité des cassures double brin dans ces cellules pour dépasser leur capacité de réparation. Et c'est le propre de la radiothérapie ou de certaines molécules utilisées en chimiothérapie, c'est de faire justement une grande quantité en un temps très court de cassures dans des cellules cancéreuses pour dépasser leur capacité de réparation et les conduire vers la mort. Et donc l'intérêt de nos recherches, qui est de comprendre comment fonctionne la réparation dans des cellules normales, c'est d'imaginer pouvoir maîtriser ces activités de réparation dans les cellules cancéreuses. L'idée, par exemple, c'est que si on trouve une petite molécule qui est capable d'inhiber la ligase 4, dont je parlais tout à l'heure, évidemment, en empêchant cette ligase de fonctionner, les cassures ne vont plus être réparées. Donc si on administre cette petite molécule aux cellules cancéreuses qu'on a traitées par radiothérapie, on va les rendre hypersensibles au traitement. Et l'idée, c'est de pouvoir baisser la dose, d'utiliser une dose plus faible pour ne pas toucher les cellules saines environnantes et tuer spécifiquement les cellules cancéreuses qui sont devenues, grâce à cet inhibiteur de ligase 4, qui sont devenues hypersensibles au rayonnement.
Alors, la ligase 4, si j'ai bien compris, c'est le maître d'œuvre. Et alors, il y a toutes sortes de protéines qui se mettent sur la protéine cou. Et tu m'as dit que si on en enlevait une seule, ça ne marchait pas. Donc, est-ce qu'il y a aussi une possibilité d'action là ou...
C'est ça. En fait, dans l'idéal, on voudrait inhiber la ligase 4. Le problème, comme je le disais tout à l'heure, la cellule humaine contient trois ligases. Et ces ligases, elles sont très proches l'une de l'autre. Donc, il y a peu de chances, en utilisant une molécule, d'aller inhiber uniquement la ligase 4. Et on peut inhiber les autres ligases. Et ces autres ligases, elles sont vitales pour le fonctionnement normal. En particulier la ligase 1, c'est une ligase qui est très importante pour la réplication de l'ADN. Donc la duplication de l'ADN en deux exemplaires, et qui est importante pour la division cellulaire. Donc on ne veut pas inhiber la ligase 1. Et donc on a peu de chances de trouver une molécule qui soit spécifique de la ligase 4. Par contre, en connaissant exactement où se fixent les autres partenaires sur la protéine cou, on peut imaginer une petite molécule qui va se mettre à ce site de liaison et qui va empêcher le partenaire de se lier à cou. Et donc là, on sera beaucoup plus spécifique, parce qu'il y a peu de chances qu'une autre protéine prenne la place de la protéine qui nous intéresse sur la protéine cou. C'est un jeu d'assemblage très fin entre deux protéines très, très spécialisées. Donc voilà. Et donc nous, ce qu'on essaie de... En collaboration avec ce partenaire qui spécialisé dans la biologie structurale, c'est de comprendre dans l'espace comment ces protéines interagissent et, dans un deuxième temps, d'aller trouver des petites molécules qui pourraient servir de futurs médicaments pour empêcher justement l'interaction entre ces protéines. Et en empêchant l'interaction, par exemple, de, imaginez, XRCC4 avec cou. Comme j'ai dit tout à l'heure que XRCC4, c'est lui qui a mené la ligase dans le système, si on empêche XRCC4 de se lier à cou, on va empêcher la ligase d'agir au niveau de la cassure, et donc on va avoir une hypersensibilité aux cassures et une hypersensibilité aux radiations ionisantes.
Et j'ai l'impression que pour comment dire, comprendre tout ça, vous avez aussi une aide d'observation technique. Là, je vois que on peut visualiser des protéines avec des systèmes
C'est
cristallographie et
ça.
cryomicroscopie
Oui.
électronique. Tu peux nous en dire un petit mot de la manière dont on peut
Oui.
voir, observer par microscopie
Là, il y
les
a,
protéines?
oui, dans le domaine de la biologie structurale, il y a un grand progrès récent qui s'appelle la cryo-électromicroscopie, c'est-à-dire c'est de la microscopie électronique, c'est-à-dire qui permet d'aller très en détail dans la structure des protéines et qui est associée à la cryogénisation finalement, c'est-à-dire l'utilisation du froid. C'est-à-dire on arrive à purifier ces protéines, par exemple la protéine Ku, on arrive à la produire dans des systèmes artificiels et à la purifier. C'est-à-dire on peut l'isoler de la cellule et en disposer de façon pure en dehors des cellules. Et si on veut connaître sa structure, on va la déposer sur une grille, on appelle ça une grille métallique, et ensuite on va plonger tout ça à une très très basse température. Donc ça veut dire que la protéine Ku qui est étalée sur cette grille, elle va se figer dans sa conformation. Et cette grille de ces protéines Ku, de très nombreuses protéines Ku, il peut y avoir jusqu'à 100 000 ou 1 million de protéines qui sont sur cette grille, on va les examiner une par une avec un microscope en microscopie électronique. Et ensuite, toutes ces images, elles vont être traitées par des systèmes donc informatiques pour essayer de les classer. Donc, on va avoir différentes catégories de cette protéine Ku avec des formes plus ou moins identiques. Parce que, en fait, quand on travaille avec des protéines isolées des cellules, ben, il peut y avoir certains défauts, certaines des protéines qui peuvent être un peu abîmées, etc. Et donc, celle-là, ça ne va pas être la forme normale de la protéine. Par contre, il va y avoir une forme majoritaire qui va refléter la catégorie la plus représentée de la protéine Ku. Et ça va donner la structure, en fait, de la protéine Ku. Et donc, si on mélange, par exemple, cette protéine Ku purifié avec la protéine XRCC4 purifiée. On les dépose sur la grille en question, on les refroidit à très basse température, on les examine avec une microscopie électronique et on arrive à avoir l'image en fait reconstituée par ordinateur du complexe entre la protéine Ku et la protéine XRCC4. Et connaissant cette structure, on peut après imaginer, toujours par simulation, une petite molécule. Donc chimique, qui va se mettre exactement au site de jonction entre Ku et XRCC4. Et cette molécule chimique pourrait éventuellement servir de médicament pour empêcher le système de réparation par jonction d'extrémité non homologue, JENH, de fonctionner.
Eh bien, je crois qu'on va retenir d'abord que c'est extrêmement complexe tout ça, et ensuite qu'il y a beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de, comment dire, de résultats et de recherches encore à entreprendre, et que ben, c'est très important pour nous, c'est très important pour la vie, c'est très important pour les maladies, c'est très important pour essayer de guérir le cancer. Donc, ben, merci beaucoup Patrick et bonne continuation, au revoir.
Merci, au revoir.